Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Les grandes gueules du sport. Vous pouvez retrouver la première heure évidemment en podcast sur toutes les plateformes. Ça s'est agité hein, autour de l'OM. Salut Philippe Saint-André, évidemment, supporter marseillais depuis toujours, hein, ne doutez jamais de cela. Lui qui est manager de Provence Rugby aujourd'hui, on le salue, on est avec Marc Madiou, on est avec Julien Beneteau, avec Pascal Duprat, Christophe Cessieux. Oui, on a beaucoup parlé de l'OM, on a parlé de l'arbitrage avec ce qui s'est passé hier à Monaco, le coup sur la cheville de Chevalier qui n'a pas été sanctionné. Dans un instant, un punchline, rallye, Sébastien Ogier, qui peut dire qu'il est le meilleur entre Pelé et Messi, avait dit Ogier il y a quelques jours, alors qu'on compare. On le comparait avec Sébastien Loeb qu'il a égalé hier avec un 9e sac au championnat du monde. On va se poser cette question, les 9 titres d'Ogier sont-ils plus impressionnants que ceux de Loeb? En fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG. Aujourd'hui, vous pouvez remporter votre séjour de 2 personnes à l'hôtel Talacab de l'île de Ré. En plus, c'est pas très loin de chez Christophe Cessieux, donc peut-être vous pouvez le croiser.
Vous pouvez finir à la maison si vous voulez. Bon, ce sera moins chic à l'île de Ré.
Il donne des cours de caisseur,
Faut un peu de caisseur.
Éventuellement. Si attends, tu veux venir, Julien.
Attends, c'est une vraie proposition que tu fais pour le gagnant, là? Se venir à la maison,
une gagnante, alors.
Oh là là, c'est incroyable. Non, mais c'est pas possible. Dans quelle année, là? Séjour.
Faire du kitesurf.
Le séjour à l'île de Ré comprend nuitée, plus petit déjeuner, plus déjeuner à la table de Grignon, plus 3 soins à la sauce, quand même pas mal.
À n'importe quelle époque de l'année?
À n'importe quelle époque de l'année. Il y a même un bain hydromassant au sel d'Aranré.
C'est
un enveloppement d'algues reminéralisantes.
Il y a pas mal, chaud,
vous avez
ça,
pas
de refaire, s'il te plaît.
Il y a un bassin. Non, je vais pas le refaire. Il y a un bassin extérieur ouvert à la belle saison. Sauna.
Alors la belle saison, elle est courte quand même. Faut faire gaffe. Hein.
15 août.
Mais pas mal. Pour remporter votre séjour Talacab à l'île de Ré, appelez le 3216 touche 4 ou envoyez sport au 7-32-16. Sport au 7.
À l'île de Léron, il fait beau, beaucoup plus souvent qu'à l'île de Ré.
Il tombe surtout sur les bons candidats de ce fameux jeu qui.
Exactement.
Très aléatoire quand même.
Alors c'est quoi les équipes aujourd'hui d'ailleurs?
Mais tu verras tout à l'heure. Voilà. Vous savez, Christophe met à jour ses statistiques sur les jeux tous les soirs.
Je vais vous envoyer ça tout à l'heure.
Jusqu'où s'arrêtera cette folie?
J'ai encore amélioré les trucs.
Allez, tout de suite, le championnat du monde de Formule 1. Le champion du monde sera peut-être connu ce soir ou la semaine prochaine.
RMC, le ring des GG.
Les feux vont s'allumer maintenant et à l'extinction, eh bien, ce sera parti pour une course sans stop, bien sûr, sans pit stop, sans arrêt. Avec Piastri, va-t-il se maintenir? Oui, a priori, les premiers mètres sont bons. Piastri qui reste devant. C'est chaud bouillant là, parce que Verstappen a signé le meilleur chrono dans le premier secteur. Il est excellent dans le deuxième également. Mais Piastri vient d'améliorer. Voilà, Piastri se met en tête maintenant. 1:19.387. Est-ce que Norris va pouvoir répliquer? Pas dans ce tour. Verstappen termine 3e. Piastri prend l'avantage. Ça, psychologiquement, c'est fort. Là, vraiment, il fait un week-end impeccable. C'est un circuit qui lui convient bien, il le dit. Un circuit qu'il sent parfaitement bien pour 108 millièmes. Donc, un gros dixième d'écart entre les deux hommes de chez McLaren.
Eh oui, tout est encore possible dans la course au titre en Formule 1.
Sauf la voix de Jean-Luc, ça c'est plus possible.
Mais non, inarrêtable.
C'est très psy, les sarpins.
Voilà. Hier, Oscar Piastri, vous l'avez entendu, a remporté la course sprint au Qatar et grappillé des points sur son coéquipier chez McLaren et leader du championnat Lando Norris. Piastri partira en pôle du Grand Prix à 17h à suivre sur RMC devant Norris et Verstappen. Le titre se jouera peut-être en partie au premier virage. Au classement, Norris compte 22 points d'avance sur Piastri, 25 sur Verstappen. Il reste 50 points encore à distribuer d'ici au dernier Grand Prix à Abu Dhabi la semaine prochaine. Norris peut être sacré s'il gagne ce soir. C'est le seul à pouvoir être sacré, évidemment. Norris peut plier la sphère ce soir. Mais les GG, je vous pose la question, alors qu'on a l'impression qu'il a le vent dans le dos. Piastri est-il le vrai adversaire de Norris? C'est la question qu'on vous pose sur le compte X des GG. Vous êtes 64% à dire oui, 36 non. Et toute ma tablée, en fait, pense que Piastri aujourd'hui est le vrai adversaire de Norris. Donc, dans ces moments-là, ce que je fais, c'est que je me tourne vers celui qui est toujours à contre-courant et qui s'en fiche de ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Il assume ce qu'il pense. à la différence de certains. Salut Christophe. Jean-Luc Roy est avec nous. Salut Christophe. Jean-Luc.
Ça commence bien comme introduction. Salut mon Georges. Et bonjour à tous les gars. Je sais bien que vous assumez vos propos. Bon, j'ai retrouvé un peu de voix. Ça va
bien. On n'a jamais douté. On fera peut-être pas de contrôle en
ce soir. Je sais pas ce que tu as fait. On va pas faire de contrôle.
Il n'y a pas de contrôle.
Attends, tiens, juste d'abord, oui ou non pour toi, Piastri, c'est le vrai adversaire de Norris? Juste oui ou non?
Ah ben. Alors, c'est le premier adversaire, oui.
Ouais. Alors, maintenant, je te pose la question. Tu nous disais depuis plusieurs semaines que Piastri était cassé, je me rappelle, dans le regard, oui. Depuis Monza et tout ça. Est-ce que tu as l'impression qu'il est réparé depuis ce week-end?
Eh bien, tout à fait, mon Georges, parce que justement, il n'a plus le même regard. Là, je l'ai bien observé, déjà après sa pole en sprint, lorsqu'il a répondu à une petite question fugitive, hein, c'est pas un long débat. Après, l'attitude qu'il a eue, tu sais, mais je crois vraiment tellement énormément à ce body language, ça n'est plus le même garçon. Ça y est, on a retrouvé le Piastri d'avant la sanction de Monza. Est-ce qu'on lui a lâché la bride sur le coup? Est-ce qu'on lui a dit maintenant tu peux jouer ta carte? En tout cas, il la joue et magnifiquement. Il a donc été le plus rapide pour la grille en sprint et il a assumé magnifiquement pendant la course. Donc il se remet en selle et là il a décroché la pole pour 108 millième, hein. Et je pense que oui, c'est l'adversaire numéro un. Maintenant, comme tout le monde le dit, ne jamais écarter Verstappen. Verstappen a une monoplace qui est un tout petit peu moins efficace, mais il est juste derrière. Et moi, je vous fous mon billet, là je suis prêt à parier, que à l'issue déjà du départ, eh bien Verstappen, il est deuxième au détriment de Norris. Donc là, on va avoir un Grand Prix formidable. Ça, vraiment.
Ouais, pourquoi? Parce qu'il est pas sur le bon côté de la piste, Norris, pour le départ? Eh ben,
déjà, ça commence comme ça.
Ou il va trop regarder les rétros.
Parce que Verstappen, et puis vous connaissez Norris, dans 8 cas sur les 16 où il avait décroché la pole, bon, il n'a pas la pole, il est deuxième, il s'est fait griller dans le premier tour. Donc là, c'est pareil, il est un peu maudit, on va dire, et surtout, il est tellement obnubilé et hypnotisé par Verstappen qui partira à ses côtés du bon côté, que moi, je pense que là, il y a, allez, pareil, comme les auditeurs, il y a 68 chances sur 100 que Verstappen devance Norris à l'issue du premier tour. Alors après, on va avoir un bras de fer formidable entre les deux prétendants, les deux contestants. Norris peut se contenter d'assumer, entre guillemets, une troisième place. Bon, alors attends, on va pas faire le Grand Prix sur un départ, hein, mais parce qu'il y aura deux arrêts au stand, vous le savez.
Obligatoire, ouais.
Ouais, exactement. Non, ça va être un Grand Prix franchement formidable. Moi, je suis excité comme une puce.
De toute façon, toi, t'es excité, même si le titre était déjà joué, tu serais à bloc, tu nous dis, ah, mais vous rendez pas compte, Bortoleto peut être dans les points aujourd'hui. tiens, j'ai des entraîneurs, des coachs, des managers autour de la table. Marc Madiot, tiens, hier, on s'est posé la question, on a écouté Piastri dire, l'écurie m'a posé la question si j'étais prêt à aider Norris à être champion du monde. Je leur ai dit non. Et derrière, après cette sortie-là, il est à nouveau performant. On a l'impression qu'il est réparé. Est-ce que tu crois au truc mental qui bascule comme ça? Le mec touché dans son orgueil, qui derrière peut réagir. Ça, il marche comme ça, les sportifs de haut niveau?
Si on est un peu objectif par rapport à la situation de ce championnat, si les choses se déroulent comme elles devraient normalement se dérouler, Norris sera champion du monde. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera dans une semaine. La gestion et le côté j'assure est pour Norris. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que Verstappen va être le trouble fait. Aujourd'hui, on peut penser, en regardant juste les chiffres et le comportement de ces dernières 24 heures, on peut se dire, Piastri, c'est lui qui peut faire basculer la donne. Non. Moi, je pense que la clé de voûte de l'issue de ce championnat, c'est Verstappen.
Ah, bah donc du coup, il y a débat, en fait, Marc.
Si Verstappen met la pression sur les deux McLaren, à un moment ou à un autre, chez McLaren, on basculera sur Norris pour assurer le coup.
Toi, tu penses qu'il ne faut pas annuler Verstappen. Il reste quand même un vrai adversaire pour Norris. Ouais, on est tous d'accord.
Ouais.
Parce que c'est un racer, comme dirait Marc. Il nous a dit la semaine dernière. Surtout pas, tu dis, Pascal. Faut pas. On dit que vous dites que Norris, peut-être son vrai adversaire, c'est Piastri, mais vous me dites aussi quand même.
Parce
faut
que
pas
la logique, comme Norris a 22 points de retard et que Verstappen en a 25, donc le premier adversaire à l'heure actuelle de
Norris.
De Norris, c'est bien sûr Piastri. Mais à l'évidence, moi ce que je retiens, j'ai l'impression que Norris et Piastri ont fait une erreur, c'est de laisser dans la course, alors que ça devrait pas être le cas, Verstappen. Voilà. Chez Verstappen, il a encore une chance de... Et comme c'est un tigre, comme il est féroce, comme il a l'habitude, la force de l'habitude, donc c'est dangereux qu'il soit, à ce moment de la saison, encore en course pour le titre. Mmh. Même si c'est hypothétique, même s'il a 25 points de retard. Et puis, je suis assez d'accord sur le fait que ma Piastri, l'Allemand, pouf,
il a le vent, il a,
alors,
le vent
pouf,
en pouf,
il a le vent en pouf,
voilà.
Et il s'est refait la cerise.
Il est 10h17, hein, pour le,
ouais, ouais, il s'est refait la cerise, et franchement, on a l'impression qu'il supporte bien la pression sur cette étape-là. Donc, oui, c'est, ce qu'il y a de bien, c'est que, l'incertitude est encore là, et ça va être un grand prix extraordinaire. Et le troisième facteur, c'est attention que Norris, ait pas la peur de gagner. Parce que ça aussi, ça peut être, si jamais il allait dans le décor, ou si jamais il se faisait doubler, comme vous le présentez, au premier virage, et qui sait,
Est-ce que le vrai adversaire de Norris, c'est pas Norris, en fait?
Peut-être.
C'est la question qu'on peut se
peut-être.
Poser. Est-ce que le vrai adversaire de Norris, ce n'est pas Norris, Julien Benito? C'est bon, tu l'as entendu cette fois-ci? Ça te fait réfléchir. Oui, c'est la même personne, je suis d'accord. Ça peut être troublant.
Mais non. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit entre Marc, Pascal et Jean-Luc, évidemment.
Merci pour la synthèse.
Sur le fait que Verstappen n'aurait pas dû être dans le jeu, il a été à un moment donné monstrueux. La FIA l'a un petit peu aidé à Las Vegas. En disqualifiant les McLaren.
Mais il y a infraction technique.
Les deux pilotes McLaren aussi.
Bien sûr, voilà. Ouais. Effectivement, je pense que sur ce Grand Prix-là, Verstappen, lui, il a rien à perdre. Il faut qu'il gagne absolument. Donc, il est derrière Piastri. Il va tout de suite plonger aux côtés de Norris. Norris, il peut pas prendre de risque. Donc, il va le laisser passer. J'imagine Verstappen être deuxième. Et Piastri, s'il est solide comme le début du week-end, va rester en tête. Et même avec les deux arrêts, la voiture est tellement forte. Et Piastri, il est tellement bon ce week-end que, qu'il va gagner. Mais je vois Norris quand même. Sans ennui mécanique, assurer, finir troisième et gérer pour le week-end d'après.
Il doit courir avec le frein à main, Norris.
Je pense qu'il doit courir naturellement. Je pense qu'il doit pas prendre de risque, pas plus de risque que ça. Même si Verstappen et Piastri partent devant, s'il termine troisième,
c'est lui. Il est tranquille.
Il aura 10 points de moins, mais il sera avec 12 points d'avance à l'entame du dernier Grand Prix. Franchement, qui laisse les vautours se dévorer entre eux et qu'ils regardent ce qui se passe.
Et le panache,
Christophe. Ah ouais, toi, tu le penses comme ça, Christophe.
Quand t'as un titre de champion du monde,
alors que la planète entière pense que Verstappen est le meilleur pilote sur le circuit, est-ce que Norris ne doit pas arriver et dire regardez, je gagne?
Tu lui donnerais raison s'il gagne et que tu te plantes dans le décor.
Alors, toi, Christophe, tu penses que troisième, c'est ce qu'il faut qu'il vise, Norris?
Bien sûr.
Ah ouais, c'est le meilleur moyen
pour. Non, mais on polarise sur Norris. On essaie de trouver des poux dans les cheveux de Norris. Mais Piastri et Verstappen peuvent s'autodétruire.
Aussi, c'est vrai. Bien sûr.
Donc Norris a intérêt à
juste moi, je suis Norris, j'attends.
J'attends.
Et comme on le sait également, il y a deux passages obligatoires par les stands.
C'est peut-être qu'il va trouver ça.
La théorie de Marc, elle est très bonne. Parce que, imaginons que Verstappen... Il dépasse Norris au premier virage. Ouais. Donc il est derrière Piastri.
Verstappen. Il va lui mettre une pression terrible.
Verstappen, il est obligé de gagner.
Ils vont bouffer les deux.
Et Piastri va pas vouloir le laisser passer. Il est obligé de se défendre Piastri. Ouais. Et là, effectivement, il peut y avoir soit un accrochage, soit ça peut
faire.
Imaginons Verstappen passe devant Piastri.
Il va être better.
Deux passages au stand. McLaren, je fais quoi?
Eh oui.
Je remets Norris deuxième.
Tu veux dire quoi? Donc tu fais durer un peu plus l'arrêt de Piastri pour dire.
Qui rentre le premier ou qui rentre le deuxième.
On est en train de voir que t'es un manager machiavélique. On en doutait.
J'ai aucune illusion.
C'est comme ça qu'il a fait entre Godu et Pinot. Il a fait comme ça.
N'importe quoi. Jean-Luc.
Il démarre au milieu.
Jean-Luc, tu y crois ça que McLaren peut peut-être s'arranger avec les arrêts pour favoriser Norris?
Bah, j'y crois forcément puisqu'ils l'ont déjà fait. Ben oui.
Alors, ils l'ont déjà fait, mais de manière
intelligente.
Ah oui, de manière pas volontaire, c'est ce que tu veux dire, oui.
De manière non visible.
Alors, tout finit par se savoir, tu sais. Non, le problème, c'est que normalement, celui qui est en tête des deux, ça c'est la règle, a le choix de l'arrêt. C'est-à-dire que si McLaren envisageait, dans l'hypothèse que vous suggérez,
sur la course, pas au championnat. Hein.
Pardon, de la course, bien sûr. Okay. Ah ben naturellement. Oui, oui. Si celui qui est en tête des deux, on va dire, même voilà. Si Verstappen était devant, Verstappen est devant, on met encore une autre hypothèse. Il est parvenu à passer et derrière on a par exemple Piastri et Norris. Hein. Mm-hmm. Donc normalement, on est censé ravitailler, changer les pneumatiques à Piastri, le deuxième, avant le troisième.
Okay.
Dans ces cas-là, leur fameuse papaya machin, donc dont personnellement ça m'a toujours fait rigoler, mais bon, la règle veut qu'on demande à Piastri, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on arrête d'abord Norris, ce qui est un privilège bien sûr de l'arrêter en premier. Et là, Piastri pourrait répondre, mais non, je ne suis pas d'accord, je suis deuxième, je suis devant Norris, c'est moi qu'on doit arrêter en premier, parce qu'il va vouloir jouer sa carte jusqu'au bout. On en revient à la petite réflexion qu'il a fait quand il a dit entre deux portes, si on m'a posé la question, j'ai dit que j'aiderais pas. Ben voilà. Voilà un cas d'école.
Non mais là, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir absolument surveiller ce qui va se dire dans les radios pendant la course. Oula. Parce que là, ça peut décider. En fait, ça va décider du championnat. Non mais franchement, depuis la saison où Hamilton et Verstappen se sont disputés le titre sur le dernier tour,
la FIA avait bien joué son rôle.
Non mais attends, j'ai toujours pas digéré. Je pense qu'Hamilton, il a toujours pas digéré.
Il faut quand même.
T'as vu ce qu'il a aujourd'hui où il est, le pauvre.
Ah bah oui,
il est trop cuit quand même.
Il est trop.
Ça fait de la peine.
La première personne qu'il traite de pauvre.
Mais rendez-vous compte, il existe quand même un scénario où on peut avoir les trois pilotes pratiquement au même nombre de points sur le dernier Grand Prix si Norris se manque complètement aujourd'hui. Tiens, sur WhatsApp au 06 12 424 424, Yanis me dit le vrai adversaire de Norris, c'est Chuck.
Bon, ça fait 25 minutes qu'elle me démange, j'ai pas osé la faire.
Oui, mais pourquoi tu l'avais faite? Et Mathieu me dit, j'imagine un accrochage au premier virage entre Piastri et Verstappen et entendre une radio de Norris qui dit merci Max. C'est vrai qu'il va falloir écouter absolument tout ce qui va se dire aujourd'hui. 17h, départ du Grand Prix du Qatar, à ne manquer sous aucun prétexte. Évidemment, avec Jean-Luc Roy au commentaire. Tiens, j'en profite pour signaler. Très important, Fred Vasseur, le patron de Ferrari, le patron de la Scuderia, sera l'invité de Bartoli Time ce soir. Interview enregistrée avant le Grand Prix, mais on a beaucoup de choses à dire, notamment vous avez vu Hamilton en grande dépression hein, encore hier, après être passé à côté de sa qualif, le mariage du siècle.
Est-ce qu'il va poursuivre une saison supplémentaire?
A priori, oui, il y aura de grandes
son interview hier, il n'a pas dit un mot. Il a tout exprimé avec les yeux.
La question lui a été posée, est-ce que c'est la pire saison de votre carrière? Il a fait...
Non mais tout était dans le regard. Il a pas dit un mot et tout était dans le regard.
Et il a été très ému quand on lui a demandé qu'est-ce que tu veux dire au public et tout qui te soutient. Merci d'être là. C'est vrai que franchement Hamilton, on va en parler.
Il est pas loin de la dépression.
On parle d'un septuple champion du monde. Allez, le résultat, est-ce qu'Oscar Piastri est le vrai adversaire de Lando Norris? Vous dites oui à 64%. À ne rater sous aucun prétexte le Grand Prix. Jean-Luc Roy va rester avec nous parce qu'on va continuer de parler de sport mécanique.
Attention à sa voix, il faut qu'il soit en forme ce soir.
Tout va bien.
Ce dimanche, il est chargé comme une balle. Ce dimanche, chez les Égers remontent le temps, on va refaire Motors en fait. Parce qu'on va parler rallye désormais. Les 9 titres d'OG sont-ils plus impressionnants que ceux de Loeb? On en parle dans quelques instants avec vous tous. Voyez-vous toutes au 32-16. A tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Les grandes gueules du sport avec Marc Madio, Christophe Cessieux, Julien Bénétreau et Pascal Duprat. C'est Julien Bénétreau finalement qui est là.
Ça lui va bien.
Non, mais je pensais que c'était pas toi. Et du coup, je vais réaliser.
Donc je suis à Vincennes cet après-midi. Voilà.
Mais ça, c'est un super bon canapé.
Il est bon.
La Dream Team propose le 8 Bénétreau. C'est très extraordinaire. Il y a un truc à faire. Est-ce que toi, tu nous respectes?
J'essaye.
C'est toujours facile.
C'est quand même pas un oui franc. Hein. Dans un instant, les GG remontent le temps. Il y a 5 ans, disparaissait Diego Armando Maradona. On va se poser cette question. Est-ce que c'est pas le plus grand?
Et naissait une grande star de la télévision à l'époque, Georges Quirineau, qui avait fait la une de tous les 20 heures pendant une semaine, qui s'est fait, mais alors...
Monté au nu.
En or.
Ouais. Montagne d'argent. Montagne d'argent. Artificielle.
Il vit encore sur la mort de Maradona. Ouais. C'est un scandale.
Non, mais l'important, c'est pas ça. C'est ce qu'on a vécu sur place. C'est les émotions. Ah, mais l'histoire.
Tu nous diras.
Qu'on tentera de partager tout à l'heure. Mais d'abord, peut-on partager justement le même siège au Panthéon?
RMC, la punchline GG.
Sébastien Ogier est entré dans l'histoire hier en devenant champion du monde des rallyes pour la 9e fois à l'issue de la dernière épreuve en Arabie Saoudite. À 42 ans, le natif de Gap égale le record de titres de son compatriote Sébastien Loeb. Il avait donné une interview intéressante en voyant venir l'histoire cette semaine à nos confrères de l'équipe sur la comparaison avec Loeb. Voilà ce qu'il disait Ogier. C'est extrêmement difficile de comparer des champions de différentes générations. Qui peut dire qui est le meilleur entre Pelé et Messi? C'est impossible à dire. En fait, lui, il est Messi et Loeb est Pelé. C'est un peu ça l'idée, quoi. Ogier et Loeb, ces deux pilotes ont été ensemble, ou plutôt l'un contre l'autre, chez Citroën en 2011, avant qu'Ogier ne soit contraint de faire sa carrière ailleurs. Champion chez trois constructeurs différents, Volkswagen, M-Sport et Toyota. Aujourd'hui, il a construit son sacre en manquant trois rallyes. Les légers, je vous pose la question. Vous me dites oui ou non, tiens d'abord. Est-ce que les 9 titres d'Ogier sont plus impressionnants que ceux de Loeb, Christophe?
Oui.
Ah, Marc Madio?
Non.
Pascal?
Non.
Julien Veneto?
Non, c'est pareil.
Jean-Luc Roy est toujours là.
Un petit oui quand même pour ce que tu as évoqué.
Ah bah tiens, bah je t'écoute Jean-Luc, c'est quand même toi, on te respecte, à la différence de Julien Veneto qui respecte personne.
Dis-nous. Alors, c'est comme si on comparait Schumacher et Hamilton, hein. Bien sûr, avec leurs 7 titres en Formule 1, on aurait beaucoup de mal à se départager. Alors, la petite différence malgré tout, c'est qu'ils sont contemporains, et tu viens de le souligner, c'est-à-dire qu'à l'époque, Ogier a quitté Citroën parce que la place était pour Loeb, et il a bien senti que tant que Loeb serait là, il n'aurait pas sa chance, donc il a eu le courage de quitter Citroën, qui était l'écurie dominante, pour partir dans un projet avec Volkswagen, qu'il a fait aboutir et avec qui il a été champion du monde donc à partir de 2013. Après une année de purgatoire, hein, il faut quand même le rappeler. D'autre part, un autre élément très important, parce qu'on n'est jamais champion tout seul, en tout cas en rallye, c'est qu'il avait un équipier, un copilote qui s'appelle Julien Ingrassia. Ils étaient vraiment en symbiose tous les deux. Et là, il est champion du monde avec un autre copilote qui s'appelle Vincent Landais, qui est beaucoup plus jeune. D'ailleurs, il a dit, il m'a régénéré. Alors qu'à l'époque, eh bien, et c'est pas un reproche, bien sûr, Sébastien Loeb était toujours avec Daniel.
Non, mais c'est vrai, mais on s'en rend pas compte, ça, franchement, Jean-Luc. C'est à ce point décisif dans la possibilité de réinventer. Non, mais je sais pas, je pense que les auditeurs, ça fait forcément. Ouais, le copilote.
Non, mais bien sûr. Écoute, moi, je me bats aussi. Le mot est trop fort. Je rappelle toujours le rôle du copilote, parce que d'abord, ils prennent les mêmes risques, et je te dirais même un peu plus, parce que l'histoire récente, en tout cas, a démontré que ceux qui prennent le plus en cas d'accident, c'est toujours le copilote, parce qu'il y a un réflexe humain qui fait que le pilote se protège, même si on peut pas le dire comme ça, mais c'est ça qui se passe. Donc, il y a eu beaucoup plus de copilotes blessés ou plus, malheureusement, dans les années récentes. Et deuxièmement, sans un copilote, justement, qui ne commet aucune erreur, parce qu'on parle du copilote quand il y a une erreur. Voilà ce que je voulais dire. Et il faut que ce soit un sans faute absolu. Et d'autre part, tu l'as rappelé également, et c'est pour ça mon petit oui, eh bien, il a volontairement raté 3 épreuves du championnat du monde. Alors, c'est son choix, hein. Mais en tout cas, il a été champion du monde en choisissant de ne pas participer à 3 épreuves. Pour moi, c'est légèrement mieux.
Voilà. C'est un peu plus fort, Ogier. Pascal, tu n'étais pas forcément d'accord là-dessus.
Moi, pas du tout. Parce que j'ai pas envie. Je trouve que c'est indécent de vouloir les opposer.
Ah, mais c'est un truc de journaliste, hein, tu le sais. Hein.
Non, mais
d'où oui,
c'est pour ça que t'as choisi ce titre-là.
Bien sûr.
Et en fait, non, moi j'ai préfère.
C'est un peu. Tu préfères ton père ou ta mère, quoi. C'est un peu ça le débat.
Non. Ouais, mais j'aimerais que tu sois respectueux avec mes parents, s'il te plaît, Christophe. Merci. Ok. Autrement, c'est à coup de bâton que ça va se finir là sur les planches. Donc simplement vous dire une chose, c'est moi je préfère l'œuvre des deux garçons. Ça fait 18 titres en 22 ans. Je sais pas si vous situez, parce que ce sont, comme l'a très bien rappelé Jean-Luc, ce sont des contemporains, quoi. En fait, quand on me dit il faut comparer Pelé à Messi, c'est pas les mêmes époques, donc c'est difficile à comparer. Là, on pourrait les comparer. Moi, j'ai pas envie de les comparer parce que l'œuvre est inimaginable.
Tu veux te fâcher avec personne,
18 titres. Non, moi, je pense que c'est indécent. Ils ont tellement bien fait les choses, en tout cas leurs parents, parce que tu faisais référence au mien, c'est qu'ils les ont prénommés pareil, Sébastien. Laissez-les ensemble, s'il vous plaît.
Non, mais le truc de Loeb, c'est que lui l'a fait en premier.
Ouais, c'est ça. Le point fort de Loeb, c'est de l'avoir fait en premier.
Après, c'est difficile de comparer.
Ça enlève quelque chose à l'autre
de comparer l'un et l'autre.
Non,
ça dépend aussi de la concurrence. Ça dépend aussi de la concurrence. Oui, les pilotes qu'on retrouve en face pour jouer les titres. Donc, petit avantage à l'aube, mais vraiment parce qu'il l'a fait en premier, mais c'est tout. Mais après, c'est deux monstres sacrés.
En fait, il y a des arguments pour donner un petit avantage à l'un et à l'autre. L'Aub, je pense qu'à son époque, il y avait peut-être un peu plus de concurrence. Ogier, le fait de le faire avec trois voitures différentes, c'est quand même très fort. Et sur un calendrier pas complet, mais le calendrier est pas complet, on peut le voir comme un accomplissement incroyable, et on peut le voir aussi que l'adversité, elle est quand même faible. C'est-à-dire qu'un mec qui fait trois courses en moins et qui est quand même champion du monde, les autres, il faut qu'ils aillent à l'auto-école quand même.
Non, mais après,
Il y a eu des titres que l'Aub,
oui, c'est
il
la même chose.
Passé de 4-5,
oui, bien sûr.
Mais après, sur le côté impressionnant, alors c'est évidemment quelque chose de subjectif, hein, il y a aussi le côté. Ce que ça engendre derrière, la popularité de l'Aub, par exemple.
L'Aub est au-dessus en popularité aujourd'hui.
Ah,
L'Aub a été sur le terrain.
Oui, il a surtout fait de la pub, il a surtout été beaucoup plus médiatique.
Il a fait Le Mans, il a fait deuxième au Mans, il a fait podium au 24 heures du Mans. Il a failli courir en Grand Prix.
Ouais, et il a failli gagner le Dakar aussi, à plein de reprises.
Je pense que Ogier, là, en légalisant, il revient vraiment sur le devant de la scène.
Il peut passer devant. Hein,
parce que l'année prochaine.
La décima, voilà.
Et maintenant, si l'année prochaine, il passe devant. Je pense que même en termes de popularité.
Non, alors, la popularité, c'est pas son truc. Il aime pas la popularité. Sachez qu'hier, on a essayé, par tous les moyens, d'avoir une réaction de Sébastien Ogier dans les émissions. Mais son service de presse, ils veulent pas.
Non, c'est
pas
ça.
Ça les gonfle de faire des interviews. Ils préfère rester caché. Sébastien Ogier,
il revendique la
star par excellence. C'est le mec qui a envie de rester auprès de son fils, dans sa famille, et c'est complètement compréhensible. Mais du coup, il a pas du tout la même exposition médiatique que l'Aub. Et puis, je le disais dans un billet il y a quelques semaines, le premier, c'est difficile parce que ça fait 18 ans que les Français gagnent tout en rallye. Et au bout d'un moment, finis par te lasser. Tu dis que c'est quasiment normal. Ouais. Un Français champion du monde en rallye, c'est normal. Donc Ogier a pas du tout la même surface médiatique qu'avait l'Aub. Et puis l'Aub, il cherchait plus la lumière, même s'il était aussi assez introverti, il était pas expansif. Mais en tout cas, Ogier, lui, il préfère.
S'il gagne un dixième titre, vous direz quoi? Vous direz que c'est toujours l'Aub dans le cœur des Français ou Ogier? S'il gagne un dixième titre.
Alors ta question est différente. Dans le cœur des Français, comme l'a rappelé Christophe, Sébastien Loeb a choisi d'être médiatisé. C'est-à-dire qu'il avait toujours des accords avec des annonceurs. On va pas tous les citer, mais il y en avait une dizaine. Et il était présent dans les spots de pub, etc. Alors que c'est le choix inverse de la part d'Ogier. Lui, il vit en Allemagne, comme vous le savez. Il est marié avec une présentatrice de télé allemande très connue. Et lui, il se met en réserve. Il cherche pas du tout la lumière. Donc si tu parles de popularité, je pense que Loeb resterait devant, malgré un dixième titre. Mais là, on parle de résultats sportif. Donc moi j'ai expliqué, tu as raison, distinguer les deux c'est un petit peu indécent, j'en veux bien, mais puisque la question est posée, j'explique pourquoi, à mon sens en tout cas, Ogier a fait un tout petit peu mieux. Voilà, c'est tout.
Même s'il a moins de victoires en rallye, sont à 67 victoires pour Ogier, 80 pour Loeb. Effectivement, pour mettre tout le monde d'accord, il faudra gagner un dixième titre, un peu comme Djokovic est allé au-delà de.
Bennett me disait hier, j'aimerais les voir sur le Dakar tous les deux.
Mais moi, c'est le plus grand regret que j'ai eu, n'est pas, alors qu'ils avaient quasiment ils étaient presque de la même génération,
la même voiture.
Mais ils ont refusé le combat. Ils ont refusé le combat.
L'année ensemble chez Citroën, quand même.
Ouais, mais il a fait. Rappelle-nous, Jean-Luc, mais il a quand même fait un peu dégager Ogier de chez Citroën pour avoir les mains libres, Sébastien Loeb, non?
Alors, c'est pas comme ça que ça s'est pratiqué, mais à l'époque, Guy Fréclin, qui nous écoute certainement et que je salue, qui a été un grand pilote et un grand manager, eh bien, il avait l'Aub sous la main et, entre guillemets, vous allez voir le parallèle, c'est un peu ce qui se passe avec McLaren aujourd'hui, j'allais dire ce qui se passait avant ce week-end. On a fait comprendre à Ogier qu'il fallait qu'il attende un tout petit peu son tour et que l'Aub était en place. Et quand Ogier l'a compris vraiment, il est parti. Ouais. Il est parti pour une année, je l'ai dit, en demi-teinte, c'est-à-dire en WRC2 sur un projet, et il a fini par gagner en 2013. Mmh. Mais effectivement, à l'époque, l'Aub était tout puissant. Il alignait ses 9 titres. Et Ogier a compris qu'ils ne pourraient pas cohabiter tous les deux au sein de la même équipe française de surcroît.
Un peu voilà. Quand Prost a refusé que Senna vienne le rejoindre, chez Williams.
Moi, je suis d'accord avec Bennett. Hein, j'aimerais bien voir Ogier contre Loeb sur le Dakar. En plus, ça redonnerait une espèce d'éclairage sur le Dakar, sur
dans
ce duel.
Dans la même voiture, et un jour sur deux, ils changent un pilote au pilote. Tu vois,
aujourd'hui, c'est à toi, Seb. Non, c'est à toi, Seb. Seb. Super.
C'est à finir qu'il y en aura un dans le coffre. Ouais.
Merci, Jean-Luc Roy, d'avoir été avec nous ce matin.
C'est toujours
évidemment, on te réécoute à 17h pour le Grand Prix du Qatar de Formule 1. Ogier, Loeb, 9 titres, évidemment. On les célèbre tous les deux, surtout dans un instant, les GG remontent le temps, on va célébrer la mémoire de Diego Maradona disparu il y a 5 ans. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilino.
Avec Julien Beneteau, Christophe Cessieux, Marc Madiot et Pascal Duprat. Tiens, les amis, dans un instant, on va ouvrir la porte de votre vestiaire. On va parler du poids des responsabilités pour un entraîneur. On va voir que c'est pas facile tous les jours d'être entraîneur, d'être à la tête d'une équipe. Mais d'abord, les GG remontent le temps. Il y a 5 ans, en Argentine, Dieu rejoignait Dieu.
Édition spéciale sur BFM TV depuis la fin d'après-midi, depuis que l'on a appris la mort d'une légende du football, Diego Maradona.
Quiero que entiendan todos ustedes, los oyentes, absolutamente todo el mundo, ¿no? Pero a mí me dicen que Diego no resistió.
No, Maradona. Él puede tener todo lo
On t'aime Maradona, il pouvait faire tout ce qu'il voulait en dehors du terrain car comme footballeur, il nous a tellement donné. Maradona m'a tout appris sur le terrain, il m'a donné tellement de joie.
Pero la cancha puede hacer lo que él quiera, pero dentro de la cancha me dio todo.
Novembre 2020, Diego Maradona décède à 60 ans dans son domicile au nord de Buenos Aires d'une embolie pulmonaire. La lumière d'ailleurs doit encore être faite sur les circonstances de sa mort. A-t-il été soigné comme il fallait ? Peu importe, en cette fin d'année 2020, l'Argentine pleure son héros, champion du monde 86. Plus qu'un joueur de foot pour les Argentins, vous l'entendez, une icône populaire à tous les niveaux. Les GG, la mort de Maradona il y a 5 ans. Évidemment, à quel point ça a été impactant, Bennett, la mort de Diego.
Oui, je mentirais si je disais que je me souviens exactement où j'étais au moment où je l'ai appris. Il y a d'autres moments dans le sport où Ayrton Senna, quand il est décédé, je sais exactement où est-ce que j'étais. Voilà.
Oui, mais il est décédé en direct à la télé.
En plus.
Différent.
Après, je crois qu'on se rend pas compte. Toi, tu l'as vécu, Georges, t'étais là-bas en Argentine.
Bah oui.
Je crois qu'on se rend pas compte à quel point Maradona était un dieu pour les Argentins. Je sais pas s'il y a un autre sportif, peut-être Ayrton Senna pour le Brésil, mais je sais pas s'il y a un autre sportif dans le monde qui représente autant pour son pays que lui l'a fait. C'est son personnage, sa vie, c'est tout simplement romanesque, hors du temps. C'est pas dans le sujet, on entend qu'il pouvait tout se permettre en dehors du terrain. Tout lui était pardonné en Argentine, à Naples.
En fait, ils ont accepté Maradona dans son intégralité, quoi,
ouais.
Dans ce qu'il était.
Mais je pense que lui, de toute façon, ne pouvait pas être autrement. Il l'a fait comprendre à tout le monde. Et le fait qu'il ait gagné en 86 l'a donné le droit absolu de gagner cette Coupe du Monde avec en plus ces scénarios incroyables en quart de finale contre l'Angleterre. Donc c'est quelqu'un qui dépasse évidemment le football et qui représente pour les Argentins une sorte d'être divin, je sais pas.
Moi, je peux vous dire, j'y étais à Buenos Aires le jour de sa mort. Vous avez entendu peut-être dans la production, on entend le journaliste qui dit « A mí me dicen que Diego no resistió ». On me dit que Diego n'a pas résisté. Ouais. Ce journaliste, j'ai parlé avec lui, je le connais très bien. C'est lui qui annonce la nouvelle en direct. Sur le plateau, à ce moment-là, il y a plein d'anciens coéquipiers de Maradona, de 86 notamment. Et en fait, il ne veut pas le dire à l'Argentine. Il cherche les bons mots pour le dire à tout un pays. Il ne veut pas dire « Maradona est mort ».
Ouais.
Il cherche une bonne formule pour que tout le monde comprenne sans que ce soit suffisamment violent. Une fois que ça tombe sur toutes les chaînes de télévision,
oui.
Les journalistes, les anciens coéquipiers, les hommes politiques, tout le monde est en pleurs. tout le monde est en pleurs. Moi, je sors dans la rue à ce moment-là, à Buenos Aires. J'ai limite un peu ému en en reparlant, parce que c'était vraiment un truc assez incroyable. Sur tous les panneaux d'affichage de la ville, vous voyez, de la ville, il y a écrit « Repose en paix, Diego ». Vous avez entendu le commentaire de 86 de son but où il dribble tous les Anglais. Vous mettiez la radio, n'importe quelle radio, repassez le commentaire de Victor Hugo Morales pour vous rappeler ce qu'avait été Maradona sur tous les balcons, sur tout Buenos Aires. Moi, j'avais traversé Buenos Aires pour aller jusqu'à la Bombonera. Il y avait des drapeaux argentins, des drapeaux de Boca, des figures de Maradona un petit peu partout. À la Bombonera, il y avait des centaines de personnes. Ce qui est fou, c'est que tu disais ce qui est représenté pour les Argentins. Il y avait toutes les générations. C'est-à-dire des gens qui l'ont vu jouer, des grands-parents, les enfants dont qui l'ont vécu de loin, qui ont vécu 94 quand il est exclu de la Coupe du Monde, et même les petits-enfants qui ne l'ont jamais vu jouer. Mmh. Tout le monde pleurait. Parce qu'en fait, c'est un emblème, Maradona. Ouais. Maradona, c'est celui qui marque le but aux Anglais.
Ouais, mais quelques années après la guerre de Malouine. Voilà, c'est ça.
Exactement.
Il a redonné l'orgueil et vengé son pays contre l'Angleterre qui leur avait mis une rouste lors de la guerre des Malouines qui était deux ou trois ans avant.
Trois ans avant, exactement, la guerre des Malouines. C'est ce but-là, il a plus qu'une valeur sportive. Ouais, une valeur effectivement de fierté politique pour Maradona, et en plus la façon, il met aussi sa main de Dieu, la façon de tromper aussi finalement l'arbitrage à ce moment-là, mais c'était incroyable. Voilà, c'était incroyable. Derrière, il y a eu trois jours de deuil pendant des jours et des jours. Il y a eu des scènes absolument dingues, les obsèques, je vous raconte pas, ça a débordé et tout ça, mais là c'est tout un pays qui pendant un an et encore aujourd'hui reste marqué. C'était il y a quelques jours, l'un de ses anciens coéquipiers, Jorge Valdano, disait: Maradona, c'est le mort le plus présent que j'ai jamais vu de ma vie. Encore aujourd'hui, on continue de parler de Maradona, et même avec Messi qui a été champion.
Et sa mort a effacé tous les côtés noirs, la face sombre.
Mais personne ne cache.
Pour les Argentins, il n'y a pas de face sombre.
Non, bien sûr qu'il y en a. Non, les Argentins ne ferment pas les yeux sur cette face sombre.
Mais je pense que c'est parce que c'est Diego. Voilà.
Mais il accepte le truc, c'est que Maradona, pour les Argentins, c'était comme un membre de leur famille, en fait. C'est-à-dire que c'est un membre de ta famille à qui tu passes parfois des choses. Ouais. On l'accepte dans tout ce qu'il est, dans toute sa complexité. Et beaucoup d'Argentins ont été très critiques, sur ce qu'il a fait avec la drogue et tout ça. Mais il y avait ce côté, justement, c'est un membre de la famille. Quand il revient entraîner en Argentine à la fin de sa vie, pratiquement, juste avant 60 ans, à Gimnasia La Plata, moi je l'ai suivi dans toute l'Argentine. C'était les Rolling Stones, dès qu'il allait quelque part. Et tous les Argentins que j'ai rencontrés à chaque fois, de tout âge, ils me disaient à propos de Maradona, il est revenu au pays. Tout le monde était conscient qu'il était fragile au niveau de sa santé. Ils disaient tous la même chose: lo tenemos que cuidar. On doit prendre soin de lui. Comme si c'était un membre de la famille. Il fallait prendre soin de cette figure, en fait, qui était plus qu'une figure sportive, même plus qu'une figure politique. C'est quelqu'un de la famille.
Mais alors, à la limite, qu'en Argentine, il représente ça, c'est compréhensible dans tous ses excès, parce qu'il leur a fait gagner la Coupe du Monde en 86, parce que c'était un. Mais qui représente autant. Moi, j'ai été marqué par ça la première fois où j'y suis allé jouer à Naples.
À Naples, bah oui. Naples,
c'est pareil. C'est pas l'Argentine. On est quand même. C'est l'Italie.
Oui, mais c'est. C'est une ville à part.
C'est une ville à part. Quand même.
Ça renvoie au joueur qu'il était.
Exactement.
Voilà.
C'est ça.
Plus que. Parce qu'en fait, ta question au départ, Georges,
c'est le plus grand.
En termes de foot et en termes d'impact. Donc, moi, simplement, quand j'ai fait mon choix, je t'ai dit oui, pour moi, c'est le plus grand, malgré les frasques, malgré ses excès, malgré tout, c'est le plus grand parce que footballistiquement, c'est plus fort que Pelé pour moi. Plus fort que Pelé, parce qu'il avait cet art de domestiquer le ballon, qu'il soit gros, que ça soit au début de sa carrière ou à la fin, il avait un toucher de balle incroyable. Puis c'est certainement un des seuls joueurs qui était capable, de manière récurrente, de dribbler 6-7 joueurs pour amener quelque chose, un but, une passe décisive. Il était génialissime comme footballeur. Alors déjà, ça a impact. Et puis ensuite, il incarnait le gamin argentin, bon pour son pays, toujours à le défendre. Voilà, et on en a oublié sa consommation de drogue, ses frasques. Voilà, pour moi, c'est le plus grand. Et aussi, on peut le juger parce qu'il est décédé. Donc, il est footballistiquement peut-être l'égal de Pelé, et encore, je le trouve un peu meilleur parce que c'est pas les mêmes générations. Et pour moi, pour ceux qui sont nés il y a bien longtemps, Cruyff pouvait aussi.
Pour moi, c'est Cruyff.
Voilà. Mais Cruyff, il a rien gagné. Tandis que Maradona, il a gagné la Coupe du Monde. Qu'à comparer Pelé et Maradona, c'est incomparable, mais on les compare. Il y en a un, on l'appelle le roi, et l'autre, on l'appelle Dieu quand même. donc voilà. la main de Dieu, c'est un péché. Ouais. Il a triché. Ouais. Mais c'est devenu, comment dire,
une justice.
Ben, il a réussi.
Ouais, presque
il a
justice.
Il y avait une justice divine.
La main, la main divine. C'est une justice. Voilà. Ouais. Il a fauté, mais c'est une justice. Ouais. C'est les dieux qui rendent l'honneur à l'Argentine à travers et ça ne pouvait être qu'à travers lui.
C'est le plus grand pour toi. En plus, t'aimes bien les personnages aussi un peu romanesques aussi, Marc. Ouais. Il a ça aussi. C'est plus qu'un joueur de foot.
Ouais, mais alors c'est bizarre parce que quand je t'écoutais, j'avais les frissons tout à l'heure et je t'écoutais religieusement et en même temps, quand il était joueur, j'étais pas fan.
Il était le rival de Platini à un moment.
Ouais,
aussi.
On avait plus Platini
qui était à la Juve et Maradona.
Mais Platini, avec le temps, n'a pas la même empreinte sur l'histoire. Mais
moi, je me souviens, j'avais 12-13 ans.
C'est particulier comme perception et comme sentiment. Je me rappelle pas où j'étais le jour de sa mort. Mais en t'écoutant tout à l'heure, j'ai eu des frissons parce que je me suis dit oui, en fait, Maradona, c'était quand même ça, quoi.
Moi, la Coupe du Monde 94, nous, la France, on n'y est pas. Et Maradona revient. Et sur les matchs de poule, il marque ce but là où il prend la caméra. Et en fait, moi, c'était une des raisons pour laquelle je suivais.
Avec les yeux.
Cette Coupe du Monde en se disant, tiens, il revient, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va être capable, avec Batistuta, etc., d'aller. Où est-ce qu'il va être capable d'aller avec l'Argentine? Et quand il y a eu ce contrôle positif pendant cette Coupe du Monde. Là, je me suis dit, je me souviens, j'avais 12-13 ans, j'étais défait. J'étais défait. Je me dis, non, putain, c'est pas possible, quoi. Il s'en sortira jamais.
Mais vous savez, ce qui était fort aussi, ce qui, je pense, l'a rapproché des Argentins, c'est qu'il avait un sens du narratif qui était absolument incroyable. Parce que quand, justement, il est exclu de la Coupe du Monde 94, il a cette phrase, il est en larmes à la télévision en direct après son contrôle positif. Donc, pour lui, c'est une injustice, la FIFA veut le sortir. Parce qu'il est un peu le Che Guevara du foot à ce moment-là. Il dit, me cortaron las piernas. Ils m'ont coupé les jambes. Ces jambes qui l'ont permis de tout faire en des années.
Maradona, complot.
Maradona,
parce que...
c'est des phrases comme ça. Maradona, c'est un drame permanent avec l'Argentine. Et je pense que c'est aussi ça qui a un attachement avec lui. Vous savez, moi, quelques semaines avant sa mort, donc il a eu 60 ans quelques semaines avant sa mort. D'ailleurs, on l'avait vu apparaître sur la pelouse de Gimnasia, La Plata, à ce moment-là. On voit très bien qu'il est amoindri et tout le monde le découvrait. On était au sortir de la crise du Covid. On se dit, oula, mais en fait, Maradona, il est pas bien du tout. Pogioni et tout, on était tous là. Et donc, il est hospitalisé quelques jours plus tard, dans un état grave. Je me rappelle, je crois qu'il avait un problème pulmonaire. Et moi, j'avais parlé avec un de ses meilleurs amis, qui est son biographe, Daniel Arcucci, qui m'avait dit, tu vas voir, t'es en Argentine maintenant, en suivant Maradona, il faut que tu te prépares avec ce personnage. Maradona, il meurt plusieurs fois. Il y avait quand même cette espèce d'idée de l'immortalité. C'est-à-dire que Maradona, il était déjà, lors de la Coupe du Monde en Russie en 2018, des dépêches étaient sorties, il est mort et tout, machin. Son ami me dit, tout le monde pensait à Victor Hugo Morales, le commentateur mythique, qui était mort jusqu'au jour où il nous a dit, bah non, mais attendez les gars, je suis là. Et ça arrivait plusieurs fois dans la vie, en fait, de Maradona, où on pensait, bah, pour des excès et tout, et ça arrivait une fois en Uruguay, où on pensait qu'il était mort. Donc, quand la nouvelle tombe,
On n'y croit pas.
Moi, quand il sort de l'hôpital deux semaines avant sa mort, j'envoie un message à son biographe et je lui dis, bah, t'avais raison, Daniel, Maradona meurt plusieurs fois, il va falloir que je m'y habitue. Et il dit, tu vas voir. Et du coup, bah, lui, cette personne-là, était à l'antenne à ce moment-là quand la mort de Maradona arrive et il reste sidéré pendant des longues minutes. Il ne peut pas croire à la mort de Maradona. Il dira plus tard, je continuais d'attendre un appel de Diego en me disant, il va revenir. Il y a un espèce de truc mystique autour de lui.
Sa vie et sa mort ont été un roman, en fait.
Il y a quelque chose de mystique qui l'entoure en permanence, en fait. Donc, c'est quand même un personnage pas comme les autres.
Je pense qu'il n'y en a qu'un, et c'est pas un footballeur à qui on peut le comparer dans l'histoire du sport, c'est Mohamed Ali. C'est un peu comme lui. C'est un mec qui a dépassé le cadre du sport, qui a eu un côté sombre et qui a eu des phases tellement lumineuses. Mais la vie de Mohamed Ali, c'est pareil. Il est viré. Pu combattre pendant des années, il revient, il bat le mec qui est imbattable.
On lui parle de des excès aussi.
On lui parle de ses excès, il finit avec la maladie de Parkinson, il va allumer.
Il y a une fin tragique en plus aussi. De l'homme ultra puissant qui est amoindri. Donc, parce que Maradona, il meurt tout seul dans son appartement, dans sa maison, pas aidé par les médecins. Le procès est en cours, mais il y a un côté presque un peu terrible dans la chute de cette personne qui était le plus fort du monde, en fait.
Ouais, ouais, ouais. C'est un peu, je trouve que c'est une bonne comparaison entre ces deux-là. Mais pour moi, et je pense que pour tous les gens d'ailleurs, quand on te demande quel a été pour toi le plus grand footballeur, tu reviens en arrière, tu reviens quand t'étais petit garçon. Et au footballeur qui t'a, ou au coureur cycliste, qui t'a marqué, qui t'a fait aimer ce sport. Et moi, de ma génération, celui qui m'a fait aimer le foot, c'est Johan Cruyff. Johan Cruyff, 74, le maillot de la Hollande, le maillot de l'Ajax d'Amsterdam, la classe internationale, ses cheveux longs, il ressemblait à une star du rock'n'roll. Il a été fantastique, même s'il a jamais gagné la Coupe du Monde.
C'est souvent lié à l'enfance.
Il a fait gagner l'Ajax. En fait. Il a permis d'aller à Hollande en finale.
Il a redonné
toutes
ses couleurs. Il y a certains joueurs marseillais, ils ont Egan Riley comme idole, tu vois. Donc, c'est l'enfance, ça.
Allez, Maradona, donc disparu il y a 5 ans. Magnifique chanson, évidemment. Il a plein de chansons sur Maradona. Allez, dans quelques instants, on va revenir au présent dans le vestiaire des grandes gueules du sport. Tiens, on a des managers, des entraîneurs, des coachs autour de la table. On va parler du poids des responsabilités quand on est entraîneur. Puis on va parler de biathlon aussi en fin d'émission. Allez, on revient dans un instant. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.